Et voilà donc une question posée pour commencer la semaine dans la tête au carré. Quand, dans l'histoire humaine, l'expression artistique s'est-elle manifestée pour la première fois? Différentes théories existent sur les origines de l'art préhistorique et régulièrement de nouvelles découvertes viennent repousser les limites de l'émergence de l'art. Dans un instant, avec mes invités, nous allons voir quand l'art a commencé, comprendre quel rôle il a joué dans les sociétés du passé et puis également comment interpréter ses représentations. J'attendais maintenant vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, comment sont réalisés les tests anti-pollution sur les voitures, Axel Villard?
Bonjour Mathieu, oui, après l'affaire Volkswagen et les révélations sur Renault la fin de semaine dernière, on met le nez dans le pot d'échappement à la une de la science dans un instant.
Stéphanie Texier est aux commandes de cette nouvelle tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les origines de l'art, c'est donc le dossier dans un instant de la tête au carré. Jean-Paul Demoule, Jean-François Dortier et Stéphane Petroniani. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue. Jean-Paul Demoule, donner une date de naissance précise à l'apparition de l'art, c'est quasiment mission impossible.
Ça change effectivement, comme vous le disiez, régulièrement. Et depuis quelques mois, c'est moins 500 000 ans.
Oui, c'est ça.
À cause de, ouais, d'un coquillage et des zigzags dessus.
C'est ça. Donc c'est quand même très variable. La fourchette maintenant bouge énormément.
Oui, avant c'était la révélation de moins 30 000, 35 000. Après il y a eu l'affaire Chauvet qui a montré que c'était pas que des petits gribouillis. Et puis on s'est posé la question sur Néandertal, il y a des indices. Il y a des choses un peu plus douteuses vers moins 200 000, 300 000 de statuettes dont on peut discuter. Et puis maintenant c'est 500 000.
C'est ça, et on le fera avec vous. Stéphane Petroniani, parler des premières manifestations de l'art, c'est parler de quoi exactement au fond?
Alors, déjà, c'est très compliqué parce que la terminologie est décisive quand on parle de ce sujet, parce que l'art en lui-même est véritablement un mot qui véhicule tellement de fantasmes et tout le monde peut se l'approprier et en même temps, il n'appartient à personne et c'est vraiment très délicat. Alors, c'est vrai que, comme disait Jean-Paul Demoule, on peut avoir des manifestations, dirait-on symbolique, ouais, qui remonte à plusieurs centaines de milliers d'années sans aucune...
Une sorte de sensibilité artistique, on pourrait dire les
voilà,
choses comme ça.
Hein, ouais, je pense qu'un symbolisme, ne serait-ce qu'à travers peut-être même la collection d'objets qui n'étaient forcément pas destinés à des fonctions, à des aspects fonctionnels, peut-être des parures corporelles, des éléments qui sont incontestables et qui sont présents depuis des centaines de milliers d'années. En revanche, une sorte de passage à l'acte vers un art un peu monumental, plus ouvert à la communication, serait quand même beaucoup plus récent, à mon avis.
Jean-François Dortier, l'art de la préhistoire, ça n'est pas que les peintures dans les grottes, hein ? Il y a beaucoup d'autres choses.
Non, bien sûr, ça vient d'être dit. On a longtemps assimilé justement l'art à un aspect très réduit qui était les grottes ornées. Et puis, en même temps, on découvrait d'ailleurs des statuettes qui existaient déjà. Et puis, dès lors qu'on a commencé à découvrir des coquillages percés qui indiquent qu'il y a peut-être des colliers de perles, et puis des morceaux d'ocre qui indiquent peut-être qu'il y avait des peintures corporelles, et puis des objets, des outils comme des bifaces qui avaient des formes très symétriques, qui avaient aussi, qui étaient faits dans des matériaux très exceptionnels, qui en faisaient des... qui remontait aux origines de l'art, qui était lié sans doute à ce qu'est un artisan, qui déjà, quand il fabrique des objets, cherche à lui donner de la beauté.
Eh bien, on va se retrouver dans un instant pour en parler avec les messages et les questions des auditeurs qui nous rejoignent en ce moment sur le site de l'émission.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science aujourd'hui, les tests anti-pollution avec la bombe qui a explosé jeudi dernier dans la voie de Ségolène Royal.
Les tests montrent des dépassements de normes pour le CO2 et pour les oxydes d'azote sur des modèles concernant plusieurs constructeurs étrangers et un constructeur français. Les tests doivent donc donner lieu à des éclaircissements en lien avec les constructeurs qui se sont dit favorables à la poursuite de ce travail. Renault a accepté de venir devant la commission la semaine prochaine pour dire comment il allait remédier à ces dépassements des normes.
Alors, qui sont les tricheurs? C'est la question que tout le monde se pose. Et comment, surtout, font-ils pour tricher? Bonjour Frédéric Blanc.
Bonjour.
Vous êtes juriste pour l'association UFC Que Choisir et membre de la commission technique mise en place par le ministère de l'écologie. Bonjour Hervé Kempf.
Bonjour Mathieu.
Quel était le but de cette commission, Hervé, née après l'affaire Volkswagen en septembre dernier?
Eh bien effectivement, il faut rappeler qu'en septembre, Volkswagen avait reconnu que ce constructeur utilisait un logiciel pour tromper les dispositifs de test des émissions polluantes. Autrement dit, les véhicules, un certain nombre de véhicules diesel de la gamme Volkswagen émettaient bien au-dessus des normes d'antipollution, notamment sur les oxydes d'azote. C'était un enjeu économique énorme, puisque 11 millions de véhicules Volkswagen étaient concernés. Évidemment aussi un enjeu sur la santé extrêmement important, puisque les oxydes d'azote et d'autres polluants ont des effets sur l'asthme et sur les maladies respiratoires. Dans la foulée du scandale, donc, des questions se posaient sur les constructeurs français. Et la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, annonçait la création d'un comité technique présenté comme indépendant pour analyser ces tests. Une question parfaitement légitime. Mmh. Il s'agit aussi de savoir si d'autres constructeurs n'ont pas triché, puisque, comme le révélait Reporter, en présentant des études originales allemandes, les véhicules, certains véhicules de la gamme Renault et de la gamme Nissan avaient des taux de pollution beaucoup plus élevés que ceux que prédisaient les tests.
Alors Frédéric Blanc, ce travail d'investigation n'est pas fini. Bien sûr, les premiers résultats ont été dévoilés et apparemment donc Volkswagen n'est pas le seul constructeur dont les véhicules dépassent les seuils de pollution.
Absolument. Alors en tout cas, en fonction des premiers tests qui ont été menés par la commission, on voit en effet des anomalies qui posent vraiment question et qui montrent qu'en effet le cas Volkswagen n'est pas isolé.
Trois constructeurs étrangers, un français, c'est ça a priori ?
D'après les dires de la ministre, il semblerait.
Quels sont les tests qui sont menés sur les voitures pour contrôler leur émission de CO2 et d'oxyde d'azote ?
Alors, ça a été donc un protocole qui, pour la première fois, est innovant, parce que c'est la première fois qu'on met en place un protocole de vérification, puisque il n'y avait pas vraiment de test de conformité des allégations faites par les constructeurs. Donc là, on a mis en place un protocole qui a commencé à d'abord s'intéresser aux trois véhicules qui étaient identifiés comme fraudés, afin de voir si on pouvait détecter à travers un système de leurre dans le cadre du test d'homologation classique, donc où on, par exemple, au lieu de respecter parfaitement la position du volant ou des pneus, on va modifier un peu pour éviter qu'un éventuel logiciel détecte qu'on est en test, qu'on calcule les émissions du véhicule, on a mis en place ça pour vérifier si en effet les véhicules Volkswagen étaient positifs, détectés positifs à ce protocole. Ça avait été le cas et donc on a pu élargir à une dizaine de véhicules cette phase de test et il semblerait que d'autres véhicules présentent les mêmes anomalies que ceux qui étaient viciés identifiés comme viciés par Volkswagen.
Est-ce que ces tests reflètent vraiment la manière dont un humain conduirait sa voiture ?
Ah non, là on est complètement dans les tests en laboratoire, c'est-à-dire sur bande à rouleau, où le test d'homologation prévoit des conditions de conduite et de conditionnement du véhicule qui est totalement déconnecté de la réalité. On va prendre des exemples. Par exemple, quand il commence le test, pour calculer les émissions du véhicule, le moteur est chaud, alors qu'en général notre moteur est froid dans la vie quotidienne quand on démarre le véhicule. Deuxième exemple, par exemple, il faut atteindre en 13 secondes 50 km/h. J'aimerais bien savoir quel automobiliste arrive, même s'il se concentre au mieux, arrive à atteindre en 13 secondes 50 km/h.
C'est beaucoup de patience. Hein.
Ben voilà, donc c'est pour vous montrer qu'il y a un vrai décalage entre ce qui est pris en compte dans le cadre des tests d'homologation pour calculer les émissions des véhicules et ce qui est la vérité chez les consommateurs.
Et c'est des décalages qui nous amènent à plus d'émissions ?
Et c'est des décalages, bien évidemment, qui augmentent en effet les émissions dans les différentes cas de figure. Que ce soit en CO2 ou en NOx, c'est en effet des vraies conséquences.
Hervé Kempf, on entend bien Frédéric Blanc qui n'a pas le droit de nous donner les résultats détaillés des tests pratiqués en ce moment par la commission sur les véhicules de la marque Renault, mais les laboratoires allemands ont, eux, rendu publics leurs résultats.
Oui, tout à fait. Et nous l'avions publié en septembre dernier. Ce qu'il apparaissait, c'est que les 10 véhicules les plus polluants et parfois à des degrés extrêmement importants, 15 fois au-dessus de la norme de 80 mg d'oxyde d'azote par kilomètre, eh bien, sur ces 10 véhicules, il y avait 4 véhicules de la gamme Nissan et Renault, dont le premier, Nissan X-Trail 1.6 DCI. Ouais. Et puis, en deuxième position, un Volvo. Et puis, en troisième position, le Renault Espace Énergie DCI. Ce Renault Espace Énergie DCI, il est très intéressant puisque une autre organisation allemande a voulu aller plus loin et a confié une étude à l'université de Berne, un laboratoire spécialisé, qui a trouvé que ce Renault Espace 1.6 DCI dépassait vraiment jusqu'à 25 fois la norme autorisée.
Est-ce que des dépassements importants, Frédéric Blanc, vis-à-vis des seuils de pollution, sont forcément associés à une tentative de fraude ?
Ah non, pas du tout. Enfin, surtout que là, dans l'exemple que vous citez, il y avait aussi un contrôle en conditions réelles. C'est-à-dire, c'est normal qu'on trouve pas le même chiffre dans le cadre d'un test en conditions réelles que par rapport à un test en laboratoire, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque c'est pas du tout les mêmes usages et les mêmes façons de conduire. Donc, qu'il y ait des décalages, c'est normal. Mais de là à ce que ce soit x15 ou x25, la différence, alors que pour certains véhicules, on peut détecter une très peu de différence entre le test en laboratoire et le test en conditions réelles, pose question. Et en tout cas, on ne peut pas en déduire qu'il y a tricherie. On peut simplement en déduire qu'il y a des anomalies qui posent sérieusement question et ça nécessite donc de passer à une phase 2 d'approfondissement des tests et d'investigation plus généralement d'ailleurs, afin de savoir exactement si c'est lié à une manipulation, à une erreur dans le protocole qui nécessiterait de le refaire, ou surtout si c'était par rapport à un véhicule déterminé, qui n'est pas le cas de tous les véhicules de la gamme ou de la version de tel ou tel constructeur. Donc, il y a encore des incertitudes, mais c'est vrai que les anomalies qui ont pu être détectées, que ce soit en conditions réelles, quand ça multiplie au-delà de x5, quand on arrive à du x10, x15 par rapport au laboratoire, au test en laboratoire, là, on peut sérieusement se poser des questions. Mais on n'a pas fait que ce seul type de protocole. Hein. On a bien sûr aussi mis en place un protocole de l'heure, comme je vous l'ai dit, qui compare un test en laboratoire avec un autre test en laboratoire de la même façon, totalement identique, mais où juste on va changer la position des roues, du moteur, changer un peu la température du moteur également, pour essayer d'éviter qu'un logiciel éventuel détecte qu'il est en test, et ce qui montre que en effet, là aussi, on a détecté des anomalies. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs éléments qui nous permettent de détecter des présomptions de fraude. Mais en revanche, pour l'instant, il est très difficile de savoir exactement quelle manipulation a été faite par les constructeurs. Je rappellerai qu'aux États-Unis, c'est un aveu de Volkswagen. Et non, grâce à l'investigation des autorités américaines, qu'on a pu savoir que c'était fraudé. Hein. Ils avaient détecté des anomalies, mais ils ne savaient pas exactement quelle manipulation ni quoi que ce soit.
C'est les aveux. Hervé n'est pas tout à fait d'accord avec vous, oui. Frédéric Blanc.
Pas tout à fait, Monsieur Blanc. Si on reprend l'histoire, on voit que l'association ICCT avait joué un rôle extrêmement important dans les tests et a averti l'EPI et l'agence américaine de l'environnement. Et il y a eu beaucoup de négociations pendant toute l'année 2014 et au début 2015 avec Volkswagen. Donc voilà.
En tout cas, la commission va rendre tous ses résultats marque par marque et véhicule par véhicule au printemps. Et vous allez suivre cette affaire de près sur Reporter.
Tout à fait. Hervé, hein. Et même tout prochainement.
Avec un dossier toujours.
Et une interview de l'homme au cœur de cette affaire.
Reporter.net pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Merci beaucoup Frédéric Blanc pour vos éclairages. Merci Axel.
À demain.
À demain. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, elle s'appelle Élise. Elle est née le 12 janvier dernier. Elle vient d'entrer dans l'histoire des techniques de procréation. C'est en effet le premier bébé français né après une vitrification d'ovocytes. Sa maman, traitée par chimiothérapie pour un lymphome, s'est vue proposer avant son traitement une vitrification qui consiste donc à plonger les ovocytes dans un bain d'azote liquide à moins 196 degrés. Cette technique n'est autorisée pour les femmes que depuis la modification de la loi de bioéthique de 2011 et à ce jour, seuls 6 enfants sont nés grâce à elle dans le monde. La plus vieille prothèse de pied vient peut-être d'être découverte en Autriche. Elle a été identifiée près du squelette d'un homme amputé du pied gauche et de la cheville ayant vécu au 6e siècle. Certainement une personnalité de haut rang, précisent les chercheurs, qui ajoutent que le risque d'infection à cette époque était extrêmement élevé. Ce qui montre à quel point le traitement médical reçu devait être bon. La prothèse était faite de cuir et de bois, le tout fixé à la jambe par un anneau de fer. Et puis enfin, la découverte de la supernova la plus lumineuse jamais détectée, nommée Assassin 15LH. Elle a été identifiée dans le ciel austral à la frontière des constellations du Toucan et du Pan, détectée sur des images prises le 14 juin 2015 par un observatoire chilien. Elle appartient à une nouvelle classe appelée superlumineuse. À son pic d'explosion, elle brillerait, selon les chercheurs, comme 570 milliards de soleils. Une vue d'artiste de cette géante est à retrouver sur la page Facebook de la Tête au Carré. Et les origines de l'art, eh bien c'est notre dossier dans un instant. Oh, Comme avec Jane à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Voilà, les origines de l'art, question toute simple pour démarrer cette semaine de tête au carré. C'est la suite de notre discussion entamée le mois dernier à l'occasion de la sortie du livre Révolution dans nos origines. Jean-François Dortier, vous êtes le directeur des éditions Sciences Humaines et c'est vous qui avez supervisé cet ouvrage. Jean-Paul Demoule, vous êtes archéologue et professeur de proto-histoire européenne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Qu'est-ce que la proto-histoire, Jean-Paul Demoule ?
La proto-histoire, par différence avec la préhistoire, c'est, on la commence traditionnellement avec la révolution néolithique, l'invention de l'agriculture et l'élevage, qui est la principale révolution dans l'histoire humaine, parce qu'à partir de là, on va avoir explosion démographique, complexité sociale croissante. Ouais. Donc, avant, on mettait tout ça dans la préhistoire, maintenant, on a préféré faire une rupture.
Ouais. Et la préhistoire, d'ailleurs, on l'a fait remonter jusqu'où ? Alors, c'est tout ce qui précède.
La préhistoire, à partir du moment où on commence à avoir des formes humaines différentes des primates, pour l'instant le plus ancien c'est Toumaï, vers 7 millions d'années.
Ouais. Stéphane Pretunini, vous êtes chercheur et docteur en anthropologie, ethnologie et préhistoire, spécialiste en art préhistorique du paléolithique supérieur. Tout ça est très précis et vous dirigez actuellement l'étude de la grotte ornée des Bernoux, hein, c'est ça? C'est en Dordogne?
Oui, c'est une petite grotte en Dordogne qui est, semble-t-il, relativement contemporaine de sa grande sœur assez connue, la grotte Chauvet.
Ouais.
Et qui montre à quel point...
Donc plutôt 30 000 ans à peu près?
C'est ça, autour de, en tout cas au début du paléolithique supérieur. Mm-hmm. Donc cette première grande chronoculture qui est l'aurignacien du paléolithique supérieur européen et qui propose en son sein donc des figures de mammouths, notamment gravées assez vigoureusement dans la pierre.
Donc il y a beaucoup de travail à faire là aussi, pour voir ce qui a été...
Le travail c'est quasiment achevé, et donc maintenant on a encore des données à traiter, des éléments à mettre en perspective et à comparer avec d'autres sites, mais l'essentiel du travail de terrain a été fourni ces 5 dernières années.
Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment d'aller justement sur les traces de ces artistes de l'époque? Alors, est-ce qu'on peut les appeler comme ça, ceux qui ont travaillé, par exemple, dans cette grotte des Bernoux?
Alors, c'est très compliqué, parce que les cavités sont les cavités ornées, dans lesquelles les hommes ont pu faire leur représentation, sont vraiment extrêmement différentes et varient très fortement de l'une à l'autre, et notamment en termes de conservation. Et c'est vrai que dans cette petite grotte des Bernoux, la conservation est extrêmement mauvaise. Les tracés sont très évanescents quand il s'agit de peinture, et les gravures sont très érodées. Mais des cavités beaucoup plus contemporaines, notamment comme la grotte Chauvet, il y a du coup cette possibilité d'entrer un petit peu comme ça, dans une sorte il y a un sentiment très 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 fort qui commence à vous envahir lorsque vous êtes devant ces représentations, de par leur fraîcheur, de par leur conservation. Et c'est vrai que lorsque les choses sont beaucoup moins, c'est sûr que cette interaction entre les œuvres, si on peut parler d'œuvres, et l'archéologue qui y passe plusieurs dizaines de milliers d'années est un petit peu dégradée, bien sûr. Oui.
Jean-François Dortier, pourquoi l'art est si important pour comprendre les sociétés humaines, alors?
Ça touche sans doute à quelque chose de propre à l'humain, hein, de cette capacité, non pas d'avoir un sens esthétique, peut-être que d'autres animaux l'ont, mais fabriquer des objets d'art, c'est-à-dire des objets beaux, qui sont toujours reliés, en général, à d'autres fonctions, soit à les origines de l'art, c'est aussi les origines de l'artisan. La fabrication d'outils, c'est aussi les origines des mythologies, des productions qu'on appelait tout à l'heure symboliques. Donc ça relie ça à la production d'un imaginaire, humain. Et donc, si le propre de l'humain, c'est aussi d'avoir des productions imaginaires, donc aux sources de l'art, ce n'est plus comme on l'a pensé à une époque, sans doute un art pour l'art, c'était tout au début. On pensait que simplement, les peintures rupestres, c'était des sortes de graffitis pour faire beau. Mais non, vraisemblablement, c'est relié à des pratiques religieuses, peut-être à des pratiques chamaniques, peut-être à des pratiques de la magie, peut-être à des pratiques totémiques. Il y a eu plein de débats et plein d'interprétations qui ont été faites pour essayer de trouver le sens de cet art.
Et ça dit des choses aussi sur les capacités cognitives aussi des humains tout au long de l'histoire.
Oui, tout à fait. Alors, pendant longtemps, on a cru justement que l'apparition des grottes ornées, il y a donc 35 000 ans environ, on va dire, hein, pour les plus anciennes, 35, 39 000 ans, c'était les origines de ce qu'on appelle les capacités symboliques. On s'imaginait que, à partir de là, les hommes se sont mis à parler, à avoir des mythes, et avant, ils ne faisaient que de casser des cailloux. Ils avaient une culture dite matérielle. Ouais. Et donc, culture matérielle, ça veut dire qu'ils ne parlent pas, ils ne rêvent pas, ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de projet en tête. Bon. Et c'est ça qui a été remis en cause récemment, tout à fait récemment, c'est-à-dire depuis le début des années 2000, où on a commencé à percevoir qu'il y avait des objets fabriqués par des humains bien antérieurs aux grottes ornées et qui attestaient sans doute de capacités de représentation mentale associées à des mythes, à des cultures, à ce qu'on appelle, nous, les cultures pleinement humaines, c'est-à-dire l'imaginaire humain et ses différentes manifestations.
Oui, donc ça veut dire, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, Stéphane Petroniani, sur le sentiment esthétique peut-être propre à l'humain.
Alors moi,
pas seulement à l'humain d'ailleurs, mais...
Non, je pense que indubitablement, la dimension symbolique est propre à l'espèce humaine, quelle qu'elle soit d'ailleurs comme espèce, mais aussi longtemps qu'on puisse remonter, le symbolisme est présent de manière très différente d'enterrer ses morts, à collecter des objets particuliers, on parlait tout à l'heure aussi de la présence d'ocre, des parures, etc., sont indéniablement des éléments qui participent comme ça, qui sont énormément d'éléments qui font que il est incontestable d'écarter toute une dimension symbolique, esthétique, alors artistique éventuellement à des populations qui bien évidemment précèdent de centaines de milliers d'années l'Homo sapiens qui est en Europe et qui aurait cet apanage de l'art ce serait quand même assez surprenant.
Jean-Paul Demoule, cette question de Yves, quand sont apparues les représentations de l'être humain dans les grottes? On nous parle beaucoup des animaux. Est-ce qu'on connaît des grottes avec des peintures de femmes ou d'hommes? Et pourquoi si peu, justement? Parce que là aussi, ça dit quelque chose de ce qu'on représente.
Il y a un débat pour deux petites statuettes humaines vers moins 300 000 ans, pour savoir si c'est des curiosités naturelles ou pas. Ouais. Donc là, je suis plutôt sceptique, mais c'est pas ma spécialité. Après, la plus ancienne représentation féminine, donc parce que c'est essentiellement des femmes, faudra revenir brièvement là-dessus. C'est une grotte en Allemagne, Hall of Hells, trouvée en 2006, 6 cm en ivoire, avec des seins et le sexe complètement exagéré, et pas de tête du tout. La tête était cassée, c'est qu'ils étaient un petit anneau pour la suspension.
Donc c'est une figurine?
Oui, c'est une figurine, mais visiblement c'était pas la tête qui était la partie du corps qui intéressait le plus.
En quoi est-ce qu'elle est faite, cette figurine?
En ivoire de
mammouth.
On y voit de mammouth. Ouais. Après, la grotte Chauvert.
Alors, excusez-moi, elle est datée à combien, précisément?
Vers 35 000 ans.
35 000 ans. Donc, c'est une des premières qu'on a dans le genre.
Oui, c'est la première.
C'est la toute première.
C'est la première statuette certaine. Ouais. Et à peu près à la même époque, la grotte Chauvert, on a un bas-ventre de femme. Là encore, le sexe de femme nettement indiqué, surmonté. Alors après, c'est des problèmes de superposition, c'est pas très clair, mais là encore, c'est essentiellement le sexe. Alors, comme le remarque l'auditeur, on a des dizaines de milliers de représentations d'animaux et beaucoup moins d'êtres humains. Alors, et plutôt de femmes que d'hommes.
C'est ça.
Alors, ce qu'on peut penser, c'est qu'à l'époque, les humains sont une espèce animale parmi d'autres et se pensent, comme beaucoup de populations traditionnelles, aussi à travers les animaux où on
Donc
a des
ancêtres. Donc, ils auraient pu se représenter, du coup, non?
Oui, ils auraient pu, mais c'est quand même les animaux qui
Pourquoi ils ne le font pas, précisément?
Pourquoi ils ne le font pas, c'est très très compliqué de répondre à cette question. Ce qui est très intéressant, c'est de s'apercevoir que effectivement, ils ne le font pas en termes de fréquence par rapport à aux autres animaux. Je tiens aussi à rappeler que il y a énormément de signes qui ont été représentés dans cet art préhistorique rupestre et mobilier hein, sur les objets, qui sont peut-être un peu méconnus, mais qui, au terme de corpus, sont très très importants. Et ces figures humaines sont à la plupart du temps, on va dire, segmentaires, puisque c'est des mains négative comme on peut l'imaginer.
On verra
comme
tout dans à l'heure à Lascaux, par
voilà,
exemple.
Voilà, à Lascaux, dans la grotte de Gargasse, dans les Pyrénées, où il y en a près de 250. Ou alors des représentations de vulves, donc avec des formes qui peuvent varier. Mais des représentations, on va dire,
stricto sensu,
de silhouette humaine relativement réaliste, se comptent quasiment sur les doigts d'une main. Ils sont très très rares.
Alors, Jean-François Lortier, voilà, à nouveau, pourquoi
ce qui laisse donc à penser que ces premières formes au sens vraiment de représentation, graphique, sont pas du tout ce qu'on pourrait imaginer comme étant, par exemple, un dessin d'enfant, les enfants qui vont dessiner vont commencer par dessiner des personnages, ils vont dessiner des soleils, des arbres, une maison, enfin c'est quelque chose de très varié. Or là, vous n'avez pas du tout de représentation de la nature, d'arbres, de soleil, de lune. Vous avez parmi les animaux qu'un certain nombre d'animaux très restreints qui sont des grands animaux, comme au départ comme les éléphants, comme les lions, plus tard les chevaux et les taureaux. Mais vous trouverez très peu d'oiseaux, très peu d'insectes, pas de serpents. Donc quand vous avez aussi peu de thèmes parmi la diversité de la nature qui est autre, vous pouvez supposer que c'est un art qui est quand même déjà assez codifié. Comme si, pour prendre une analogie un petit peu longue, vous regardez l'art du Moyen-Âge, vous allez trouver des croix et des saintes vierges. C'est assez peu de choses par rapport à la variété des représentations humaines, ou des représentations possibles plutôt. Et donc on peut supposer, je crois que Stéphane a travaillé beaucoup là-dessus, sur cette idée d'une codification des thèmes qui étaient choisis pour être représentés.
Allez, on revient aux origines de l'art ensemble dans un instant. Deuxième partie de ce dossier, tête au carré, vos messages, franceinter.fr et sur les réseaux, le mot-clé, l'attaque par exemple.
Nous n'en savons encore rien, mais ce moment est bien. On ne se le dira que demain, quand ça le sera moins. Nous n'en savons encore rien, mais cet instant est mieux que ce que l'on imaginait, que dans un jour ou deux. La vie s'écoule, cool, quand la vie s'écoule, cool, comme un bon vin dans un jardin, comme ça pour rien. La vie s'écoule, cool, quand la vie s'écoule, cool, comme un bon bain qui ne sert à rien, mais qui fait du bien. On ne sait que ces petits riens feront les grands moments. Qu'on en dira, oh putain, tu te souviens du bon temps. On se dira toujours qu'on en a pas assez profité. Alors faisons le cas, histoire de ne pas le regretter. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool, comme un bon vin dans un jardin, comme ça pour rien. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool, comme un bon bain qui ne sert à rien, mais qui fait du bien. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool. Nous n'en savons encore rien, mais ce moment est l'un de ce qu'on aimera penser quand ça n'ira pas bien. Nous n'en savons encore rien, mais ce moment sera loin quand on se dira, oh putain, là j'y retournerai bien. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool. Comme un bon vin dans un jardin, comme ça pour rien. La vie c'est cool, cool, quand la vie c'est cool, cool. Comme un bon bain qui ne sert à rien, mais qui fait du bien. La vie c'est cool, 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 cool. Quand la vie c'est cool, 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 cool. La vie c'est cool, 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 cool. Quand la vie c'est cool, 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 cool. Ce moment deviendront de grandes crues auxquelles on n'aurait jamais cru. N'oublions surtout pas d'en avoir bu. Si j'avais su. La vie c'est cool, cool.
Quand la vie c'est cool, cool.
Quand la vie c'est cool, cool.
Cool, cool.
La vie c'est cool, cool.
Quand la vie c'est cool, cool.
Quand la vie c'est cool, cool.
En Antoine Hainaut, La vie c'est cool, et Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré. Jean-Paul Demoule, Stéphane Petroniani et Jean-François Dortier, nos invités pour parler des origines de l'art, inspirés directement par ce livre « Révolution dans nos origines » publié aux éditions Sciences Humaines. Jean-François Dortier, puisqu'on remonte vraiment aux origines de l'art, encore quelques éléments concrets de choses dessinées ou d'objets qu'on peut trouver, parce qu'il y a des choses absolument magnifiques, en Afrique en particulier.
Oui, hein. Alors ça c'est une des grandes, justement, révolutions, c'est le titre qu'on a donné à ce livre, Révolution dans nos origines, qui est assez récent, d'une quinzaine d'années, où on découvre en Afrique du Sud, dans une grotte qui s'appelle Blombos,
ouais,
deux éléments très importants qui remettent en cause un scénario, ouais, sur les origines de l'art. Quels sont ces éléments? Ce sont des coquillages percés, retrouvés dans cette grotte, qui servaient vraisemblablement à faire des colliers, et puis des morceaux d'ocre rouge sur lequel il y avait des gravures.
Donc ça sont des blocs, on imagine un bloc d'ocre.
Voilà, hein, des tout petits blocs d'ocre, mais qui sert quand même de colorant vraisemblablement, et sur lequel on trouve des gravures,
des motifs géométriques.
Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que veut dire déjà avoir un collier? On peut dire simplement, puisqu'ils ont été percés vraisemblablement, ouais, intentionnellement pour faire un collier. On peut dire c'est un objet de décoration. Mais les objets de décoration aussi, ils servent de marqueur pour s'identifier. Donc sans doute peut-être pour dire j'appartiens à tel groupe, ou au sein d'un groupe, un personnage qui serait particulier, on ne le sait pas. Ouais. Mais en tous les cas, dans toute l'histoire humaine, les objets de parure sont aussi des objets d'identification.
Jean-François, juste un mot sur la datation, le bloc d'ocre dont vous parlez avec les figures géométriques, c'est quoi?
75 000 ans. Mais alors depuis, on a trouvé d'autres traces similaires, notamment en Israël, notamment en Afrique du Nord, de coquillages percés, ouais, qui datent de 100 000 ans. Et donc là, on est dans une autre périodisation, puisque les grottes ornées, c'était il y a 30 000 ans en Europe. Et maintenant, on sait d'abord que l'art rupestre, il est mondial, mais surtout qu'on a donc des traces d'authentification d'un art symbolique, ouais, il y a 100 000 ans.
Alors, cet art rupestre, il est mondial, nous dit Jean-François Dortier. Jean-Paul Demoule, est-ce qu'on peut s'imaginer, enfin, d'ailleurs, on en a la preuve avec les observations qu'on peut en faire, que partout dans le monde, quasiment en même temps, les hommes ont produit ou dessiné ou représenté les mêmes choses?
En partie, puisque maintenant on a des dates au moins aussi anciennes en Indonésie, dans l'île de Sulawesi, vers moins 40 000, oui, on a représenté aussi des animaux, là c'est les animaux locaux, le Birusa, et aussi des mains, justement, oui, ce thème des mains qu'on retrouve dans le monde entier. Pour laquelle on peut supposer, par exemple, c'est une manière de se représenter soi-même. On imprime en positif ou en négatif sa main et on s'écarte de la représentation, puisque représenter, c'est présenter quelque chose qui est plus là. Donc, il y a quelque chose qui va avec la complexité psychique, psychomotrice de l'humain depuis 7 millions d'années.
Avec une émergence simultanée, au fond, quels que soient les endroits où on se trouve dans le monde,
façon,
avec l'impossibilité de communiquer, évidemment, à l'époque.
De toute façon, c'était les mêmes, hein, puisque c'est, ouais, ceux qui sortent d'Afrique, même s'ils se mélangent ponctuellement, localement, avec les premiers qui étaient encore sortis 2 millions d'années avant, c'est quand même les mêmes, les Homo sapiens sur l'ensemble de la Terre.
Cette technique des mains, justement, illustrée par exemple dans les grottes de Lascaux.
Dans la salle des taureaux et le diverticule axial, plusieurs figures montrent des effets de couleur et de dégradés très fins. Deux techniques permettent d'expliquer ces effets, le soufflet et le crachi. Récemment, le crachi était encore courant chez de nombreux peuples de chasseurs-collecteurs, comme les aborigènes australiens ou les bushmans du Kalahari. C'est ainsi qu'ont été obtenues les figures rupestres parmi les plus anciennes, comme les mains négatives. Pratiquée dans d'autres grottes, cette technique semble n'avoir été utilisée que très peu à Lascaux. Le soufflet consiste à projeter le pigment sec sur la surface rocheuse à l'aide d'un os creux ou d'un roseau. La poudre est ainsi diffusée de façon bien plus régulière. La main ou divers objets plats, peau ou écorce, peuvent servir de pochoir afin d'obtenir des contours plus nets.
Voilà, dans les coulisses de la technologie de l'époque. Stéphane Petroniani, vous vouliez faire un commentaire sur ces mains. Alors pourquoi on dit négative et positive d'ailleurs?
Alors on parle de mains négatives parce qu'il s'agit finalement en fait d'un système de pochoir où la main même de la personne qui réalise la figure est apposée sur la paroi et le pigment étant projeté de différentes manières.
Comme autour, on l'entendait là à l'instant.
Voilà, ouais, autour de la paroi. Donc là on parle de mains négatives. Et ce qui est très intéressant, c'est de s'apercevoir que sur l'ensemble des grottes ornées, Ornée, notamment les grottes ornées européennes, ouais, on a une extrême majorité de figures, enfin de mains négatives, et que les mains positives, dont la technique pourrait s'apparente à une dimension nettement plus simple, on va dire, dans la réalisation, d'une simple position du pigment sur la paume de la main, puis va être ensuite posé sur la paroi, vont être extrêmement minoritaires, voire parfois même on se demande si c'est pas des accidents, ouais, parce qu'il y a peu de véritables, on va dire, investissements, en tout cas, ouais, symboliques. À ceci près, comme exemple, que, notamment dans la grotte Chauvet, on a des animaux qui sont réalisés avec des silhouettes qui sont réalisées entièrement à l'aide d'énormes points. Et on s'est aperçu, c'est les travaux notamment de Valérie Ferriglio, qui ont montré que s'agissait de mains, en fait, hein, puisqu'on a parfois les négatifs de l'auriculaire, etc., mais dont les doigts étaient retirés, mais simplement la paume. Donc là, il s'agit aussi de mains positives, ouais, mais on n'a pas voulu faire une main, c'était une technique qui l'utilisait. Enfin, c'est, voilà.
Alors,
c'est
Jean-Paul Lemoule, il y a des constantes aussi, la représentation féminine. On parlait de ces Vénus, très, oui, peu de représentation d'hommes.
Oui, très peu.
Et là aussi, comment on l'explique alors?
On a dit traditionnellement, d'abord on les a appelés des Vénus parce que c'était plus convenable, ça faisait une référence à l'Antiquité.
Il y en a très belles au Musée de l'Homme d'ailleurs, oui, ici
oui,
à Paris.
Hein. Oui, les Spugues, oui, en particulier. Et puis on a parlé de la fertilité, la fécondité, la maternité, etc. Mm-hmm. Moi je pense personnellement qu'il s'agit beaucoup plus de la sexualité qui est en jeu, qui est codée par ces représentations. Parce que l'espèce humaine est de tous les primates la seule où la sexualité n'est pas interrompue par des moments de stase. Chez tous les autres primates, il y a des moments où les femelles ne sont pas réceptives. Chez les humains, on peut faire l'amour tout le temps, ce qui peut représenter des avantages, mais c'est aussi une tension permanente. Si on regarde les plus anciens textes, l'Iliade, ça commence par une infraction sexuelle. L'épopée de Gilgamesh, on a ça aussi, etc. Les représentations sur les frontons grecs. Donc les humains ont ça à gérer. Et donc, ces statues qui sont pas du tout représentatives, qui sont extrêmement codifiées avec le même code de l'Aquitaine à l'Ukraine, ouais, on peut penser qu'effectivement autour de ça il y avait à comprendre, codifier la sexualité sans doute d'un point de vue masculin, pas féminin.
Jean-François Dortier.
Voilà, donc tout à fait. Si donc il y a bien une codification de l'art et c'est relié à des codifications de la société, ça veut dire que nous avons affaire à des sociétés de la préhistoire qui sont pas simplement des petites bandes de chasseurs-cueilleurs qui s'amusent le soir à la veillée de peindre sur les parois, oui, ou de fabriquer des objets pour tromper l'ennui, mais bien à des sociétés organisées, avec des thèmes fondamentaux qu'il s'agit de mettre en valeur, et qui sont associés sans doute non seulement à des rituels, des mythologies, et un ordre social très structuré.
Stéphane Prédonani.
Oui, et je rajouterais évidemment dans ce sens que les échanges devaient être extrêmement forts, puisque quand on prend cet exemple des représentations féminines, on sait que notamment dans une période culturelle qui est aux alentours de 25 000 ans, on va dire, pour être plus simple, qui s'appelle le Gravettien, la figure féminine va être présente dans toute l'Europe, du Portugal jusqu'à l'Oural, et le canon stylistique va être cette hypertrophie des parties sexuelles de manière extrêmement forte. Et alors que la chronoculture qui va la suivre, deux chronocultures plus tard, on va avoir une figure qui va être plutôt de profil, avec des seins nettement moins marqués, beaucoup plus fluettes. Et on sait très bien que aucun homme préhistorique n'a pu aller du Portugal au Caucase, mais de proche en proche, les groupes ont véhiculer leurs idées, leurs objets et passer. Enfin, voilà.
J'ai justement une question de Barbara qui aimerait bien savoir si ces statuettes de femmes dites Vénus ressemblaient justement aux femmes de l'époque. Est-ce que c'est possible qu'elles représentent exactement l'allure des femmes à l'époque comme il en existe encore chez certaines populations d'Afrique actuelle?
Sûrement pas. Il y a une phrase célèbre d'ailleurs d'André Leroy-Gourhan qui se moquait si c'était vraiment ça l'effondrement, je sais plus comment il dit, de leur poitrine, etc. C'est pas du tout représentatif. C'est ça qui confirme justement que c'est codé, c'est que c'est à la fois le même schéma partout et que ça ressemble pas du tout à une femme normale, enfin telle qu'on on les connaît, ouais, jusqu'à présent.
En France, évidemment, dans les grottes, on représente des mammouths ou des aurochs. Oui. Eh ben, en Afrique, on représente par exemple des girafes.
En 1997, Jean et René atteignent pour la première fois le sommet de Dabous. Ils découvrent ainsi un joyau de la préhistoire de l'art africain.
Ah, c'est beau.
Ouais. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Il n'y en a ouais. pas d'autre comme ça. Hein. Ouais. Cette grande girafe, elle fait plus de 6 mètres. Elle a des proportions absolument parfaites. Donc, il y a eu des repères. Puis, ils ont fait les gravures. Ouais. Ils ont poli l'intérieur des gravures. Ils ont allongé, ça a dû prendre du temps. Ils ont sculpté l'intérieur du corps pour rendre les ocelles. Pourquoi prendre tout ce temps pour faire ces dessins à un endroit où les gens ne le voient pas, où il faut qu'ils y aillent exprès? Il peut y avoir un symbolisme, c'est-à-dire comme la pluie qui tombe du ciel, la girafe a un coup qui l'amène presque dans les nuages.
Voilà, le préhistorien Jean Clotte. Alors cette girafe, elle n'est pas dans une grotte, hein, Stéphane Patonani, hein.
Non, elle est à l'air libre et notamment c'est peut-être une des raisons de cette peut-être ce déséquilibre entre les figures du paléolithique européen comme on les connaît, ces milliers de figures dans les cavités européennes et ces rares figures africaines contemporaines, puisqu'on a quand même une grotte qui s'appelle une grotte Apollo en Namibie où on a une figure d'animal qui remonterait au-delà de 20 000 ans, mais le réseau karstique, c'est-à-dire le réseau de formation des grottes, étant ce qu'il est en Afrique, et en particulier en Afrique du Nord, ne permettait pas forcément d'avoir cet équivalent, et donc l'art étant rupestre et en plein air.
Allez, dernière partie de cette tête au carré, beaucoup de messages pour vous, je vous transmets les questions des auditeurs dans un instant pour poursuivre notre discussion sur les origines de l'art. To carry on, you're way on top now. Since you left me, you're always laughing way down at me. But watch out now, I'm gonna get there. We'll be together. Just a little while, and then I'm gonna put you way down here, and you'll start crying 96 tears. On top, you be right down there looking up, and I might wave, come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here wondering how I'm gonna get to you, but I know now I'll just cry. One heart to be crying, too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, 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 cry now. You're gonna cry, 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 cry 96 tears. Come on, let me hear you cry now. Question mark and the Mysterians à l'instant.
La tête carrée sur France Inter.
Et les origines de l'art avec nos invités Jean-Paul Demoule, Stéphane Petroniani, Jean-François Dortier. Justement, peut-être une question pour vous, Jean-François, Christophe, qui demande ceci. L'art avant d'être l'art, est-ce que ça n'était pas qu'un moyen de communication avant tout?
Oui, moyen de communication vraisemblablement, puisqu'il s'agit de transmettre des messages à travers sans doute des peintures rupestres, et comme je le disais tout à l'heure, à travers des colliers aussi, c'est des principes d'identification. Donc s'identifier, un marqueur social, c'est un moyen de communication. Ça veut dire, j'appartiens à tel groupe, tu appartiens à tel autre groupe. Donc il y a eu par exemple beaucoup d'interprétations sur l'art comme totémisme. Les animaux souvent pourraient être associés aussi à un groupe, qui une façon de dire, je suis du clan de l'ours, je suis du clan du taureau. Ça a été remise en cause, rediscutée, mais enfin, ça fait partie de cette idée globalement que l'art, ce n'est pas simplement qu'un moyen esthétique, mais c'est bien un moyen pour organiser une société, communiquer, échanger, comme il vient d'être dit. Et comme ça le reste ailleurs aujourd'hui, pour beaucoup, le roi Gouran, qui était un des grands noms de la préhistoire française, parlait d'esthétique fonctionnelle. Il disait, les objets qu'on fabrique, regardez la chaise sur laquelle on est assis, la bouteille dans laquelle je bois, à la fois c'est un objet d'utilité, utile, ouais. Et en même temps, cherche à lui donner un sens esthétique.
Eh ben justement, Jean-Paul Demoulier, cette question de Dominique, est-ce que vous ne pensez pas que les bifaces d'il y a quelques 500 000 ans impliquent un sens esthétique considérant leur symétrie, par exemple?
Oui, ça a toujours été dit, parce qu'effectivement, la symétrie, elle existe dans la nature, notre corps est symétrique, mais il n'y a pas besoin de faire des objets aussi réguliers pour qu'ils soient efficaces. Ouais. Donc, cette coïncidence, comme disait Jean-François à l'instant, entre une fonction et rendre ces objets-là plus esthétiques, ce qu'on appelle le design maintenant, ça remonte effectivement au moins au biface.
Stéphane Petroniani, Thierry nous dit ceci, est-ce qu'on peut dire que les grottes ont offert un refuge aux hommes pour s'exprimer à l'abri du climat et des intempéries, que justement sous d'autres cieux, ils ne se seraient simplement exprimés que sur des supports à l'air libre, donc potentiellement fragiles et à durée de vie limitée?
Déjà, c'est ce qu'il faut bien... prendre en considération, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est que l'homme ne vivait pas dans les grottes. Il peut, bien évidemment, temporairement, il y a des exemples d'habitants en grotte, mais ce n'est absolument pas la majorité des sites préhistoriques, donc plutôt des sites de plein air, et que la cavité, comme la plupart des spécialistes parfois l'appellent le sanctuaire, ce nom n'est évidemment pas sans véhiculer un sens très particulier à une zone qui elle-même est très particulière, et qui forcément, pour aller dans le sens de cet auditeur, finalement nous permet aujourd'hui, par ce confinement extrême de figures, nous a permis d'hériter de ces figures.
Il y a beaucoup de questions sur les instruments de musique également. Jean-Pierre nous dit ceci. Au-delà des instruments retrouvés par les archéologues, est-ce qu'on pourrait pas penser que depuis très très longtemps, des humains ou préhumains ont chanté, sifflé, produit des percussions?
Effectivement, Jean-Paul Demoulin. En même temps que la fameuse statuette de Hohlefels dont on parlait tout à l'heure, il y a justement une flûte qui a été trouvée à côté.
Donc toujours aussi. 35 000 ans oui, à peu c'est, près, c'est ça, ça qui serait l'un des oui. tout premiers instruments
oui.
de musique.
Oui, il y a une flûte possiblement néandertalienne trouvée en Slovénie autour desquelles on s'écharpe, donc qui serait encore plus ancienne. Mais donc là, on est sûr. Il y a aussi les instruments qu'on fait tournoyer, là, les rhombes. Donc c'est évident que le langage, le chant, la musique, tout ça aller ensemble.
Jean-François Dortier.
C'est intéressant cette question d'auditeur parce qu'elle permet de recontextualiser ce qu'on appelle l'art, qu'on assimile un peu souvent justement aux peintures rupestres, aux statues, ouais. Et on s'imagine que... Ah non, c'est parce qu'on a des vestiges, mais il y a beaucoup, par exemple, de tribus primitives, si vous allez dans... dites primitives, entre guillemets, traditionnelles, si vous allez en Amérique du Sud, et ben dans les populations qui viennent des forêts amazoniennes, l'art, c'est essentiellement un art de chant, de danse, fait aussi avec des plumes d'oiseaux, de décoration, qui ne laissent aucun vestige.
Et oui.
Aucun vestige. Donc, ce dont on appelle l'histoire de l'art, c'est l'histoire des vestiges que l'on a trouvés sur certaines périodes.
Stéphane Petroniani, sur l'interprétation, évidemment, de cet art, de ces arts dont on parle, il y a beaucoup de choses aussi autour de l'imaginaire, évidemment, des hommes, des mythes. Du chamanisme.
Alors les interprétations, c'est un sujet extrêmement.
C'est délicat, non?
C'est délicat.
Parce que là,
c'est souvent lié à la comment dire au contexte en fait finalement de la recherche et même de la société. Tout à l'heure, on rappelait que les premières interprétations tournaient autour de l'art pour l'art et c'était une période. On était fin du 19e, début du 20e où c'était quelque chose qui était complètement dans l'air du temps. Et évidemment, les grandes interprétations se sont succédées. disais, de la magie de la chasse au chamanisme, le totémisme, etc. Mmh. Et c'est vrai que ces théories, en fait, traitent de 20 000 ans d'histoire de l'art, enfin, d'art préhistorique. 20 000 ans. Et il est très peu probable qu'une seule théorie puisse arriver à elle seule expliquer 20 000 ans. C'est quasiment impossible. Traiter du chamanisme, peut-être pour dans certains cas, se révélerait être... donc on rappelle qu'un chaman qui incorporerait des substances qui lui permettraient d'être en transe et interagir avec les âmes ou les esprits de la tribu pour pouvoir après apposer ses figures sur le... Voilà. Peut-être que dans un exemple, ou peut-être deux exemples sur des centaines de grottes, ça peut avoir fonctionné, mais en tout cas, c'est très peu probable que ça puisse s'appliquer à l'ensemble des cavités, puisque la plupart des travaux montrent que c'est un art extrêmement structuré, notamment les études structuralistes de l'époque, d'ailleurs de ce structuralisme très fort dans la société des années 1960, a montré que n'importe quelles figures ne sont pas faites à n'importe quel endroit de la cavité, tels animaux s'associent avec tels animaux, etc., et montrent combien les choses se structurent, et avec des interdits très forts pendant des dizaines de d'années.
Jean-François Dortier.
Oui, alors, outre la théorie chamanique de l'art, il y a une hypothèse qui est aussi avancée par de nombreux chercheurs aujourd'hui, c'est une hypothèse mythologique. Et c'est quelque chose d'assez fascinant, c'est une tentative pour essayer d'interpréter les peintures, les figures artistiques. Alors notamment, dans le livre « Révolution des origines », il y a un article très intéressant de Jean-Louis Lequelec qui a étudié en Afrique, dans le désert du Sahara, des figures qui sont représentées sur les parois, dans une période sans doute assez récente, mais dont on a pu faire le lien avec des mythologies liées aux populations Touareg. Notamment, ce sont des figures dites théranthropes, enfin, ce sont des figures mi-hommes, mi-animal, mi-chien, hein, des hommes à tête de chien qui sont représentés sur les parois, et on retrouve dans certains contes, légendes et mythes des Touareg, des figures qui sont similaires. Donc on peut se demander, dans certains cas, on pourrait faire un lien entre, comme ça se fait également en Australie, avec des populations aborigènes qui peuvent encore raconter des choses qui sont dessinées sur les parois. Et cette hypothèse mythologique, aujourd'hui, elle est développée par certains chercheurs qui essayent de mettre en correspondance des différents mythes de l'humanité pour essayer de retrouver des thèmes fondamentaux liés au passé humain et aux plus anciens mythes de l'histoire.
Jean-Paul Lemoule, pour terminer, on parlait d'un objet de 500 000 ans, qui pourrait être l'un des plus anciens de l'histoire de l'art humain, justement. Vous nous reprécisez ce qu'il est ?
Oui, ça a été trouvé en Indonésie. Donc c'est un coquillage sur lequel ont été tracés très régulièrement des zigzags. Ouais. Et ce coquillage appartient à une fouille. Le problème, c'est que c'est en réexaminant les objets d'une fouille beaucoup plus ancienne. Donc il reste un petit doute. Mais donc 500 000 ans, c'était ce qu'on appelait traditionnellement le pithecanthrope, ou maintenant les Homo erectus.
Stéphane Petroniani, pour terminer très rapidement, la variété des représentations, parce qu'on parle de ces figures géométriques, mais au fond, il n'y a pas tellement de variété dans ce qu'on peut voir.
En tout cas, pour l'art.
Et de moins en moins au fil du temps, d'ailleurs, si c'est ce que vous dites.
Alors, pour l'art préhistorique, on va dire paléolithique, européen, toutes ces figures dans les grottes, on a extrêmement peu de figures représentées. Tout à l'heure, on disait, voilà, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas, enfin, extrêmement peu, les petits animaux, les rongeurs, etc., ne sont pas du tout de la partie. Donc, il y a une monotonie des thèmes. Et cette monotonie va finalement dans ce sens d'une codification extrêmement forte de la pensée symbolique et du message que le groupe, hein, puisqu'il s'agit de groupe, voulait faire apposer à l'artiste, on peut parler d'artiste, sur la paroi, son propre message.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, c'est passionnant, il faudrait encore faire une autre tête au carré ring sur le sujet de l'art, parce que c'est vraiment extraordinaire, il y a beaucoup de choses à dire, et beaucoup de questions malheureusement auxquelles on n'a pas pu répondre. En attendant, on peut lire « Révolution dans nos origines », Jean-François Dortier, vous faites la somme des connaissances les plus récentes justement, et pas que dans le domaine de l'art, c'est aux éditions Sciences Humaines. Merci beaucoup à tous les trois.